Bonne année avec Suno Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La date du 7 janvier reste depuis 4 ans associée pour beaucoup d'entre nous à l'attentat de Paris contre Charlie Hebdo. 4 années ponctuées par une série d'attaques contre des cibles diverses, des journalistes, des jeunes, des familles, la population civile dans sa diversité visée, des policiers, des militaires, des personnalités religieuses. Ce 7 janvier constitue depuis 2015 un événement en soi, mais aussi le premier acte d'une longue série qui ont provoqué des bouleversements, des traumatismes individuels, mais également des changements d'ordre collectif. Traumatisme d'abord, bien sûr, pour les victimes et pour leurs proches. Mais au-delà, ce sont de nombreuses habitudes et perceptions qui ont changé pour une bonne partie de la population, avec l'irruption de militaires dans les rues de certaines grandes villes, uniformes et mitraillettes bien visibles, une société qui vit aussi au rythme des annonces officielles, plan Vigipirate, évolution du niveau d'urgence, fouilles à l'entrée des bâtiments publics, consignes particulières pour les écoles, par exemple, autant d'éléments qui ont finalement conduit à ce que cette menace s'immisce dans notre quotidien, et y compris dans le ressenti des plus jeunes, qui pour certains d'entre eux se sont finalement habitués à ce contexte de communication sur l'insécurité. Des enfants qui se sont familiarisés avec son vocabulaire, sa traduction visuelle, les patrouilles, les fouilles, les images à la télé, les discussions et même des exercices de préparation-prévention dans le cadre scolaire. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons tenter de savoir de quelle façon ce contexte de risque terroriste est perçu par les plus jeunes, dans quelle mesure ce sentiment peut influencer leur développement, ce que ça peut signifier aussi pour ces enfants, le fait de grandir sous cette menace terroriste. Des questions qu'on aborde en votre compagnie, docteur Claire Di Paola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute spécialisé en psychotraumatologie au sein de l'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de Plaisir en région parisienne. Et on vous retrouve en duplex de Nantes. Professeur Agnès Florin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes. Et on remercie chaleureusement nos confrères de France Bleu Loire-Océan pour leur accueil. Tout à l'heure, illustration dans d'autres contextes, comme au Nigeria, pour les enfants soumis à la menace de Boko Haram. Nous rejoindrons Michèle Mariette, psychologue clinicienne pour Médecins Sans Frontières. Et en fin d'émission, on va revenir sur la tribune publiée le 28 décembre dernier dans le journal Le Monde. Un collectif de médecins y interpelle le gouvernement sur la place des femmes dans les carrières hospitalo-universitaires en France. Objectif, favoriser l'accès des femmes aux postes de direction dans le domaine de la santé. Nous serons en ligne avec le professeur Laurence Bouillet, professeur de médecine interne immuno-allergologiste au CHU de Grenoble.
Priorité santé sur RFI.
Alors je le disais en début d'émission, l'impact de ces attentats varie en fonction de la proximité, bien sûr, avec l'événement, proximité affective, proximité physique aussi, docteur Claire Di Paola. Mais on peut se demander finalement si toute la population d'un pays, d'une nation, n'est pas finalement affectée d'une manière ou d'une autre par cette violence terroriste.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, au niveau des enfants, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement l'impact de l'événement sera moindre par rapport à la résonance avec la peur des parents. Donc si les parents sont impactés, et le fait de voir les images en boucle, etc., impacte les parents, eh bien ça va impacter indirectement les enfants.
Malgré tout, quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'il doit y avoir une forme de rétention des émotions, où il faut les exprimer, mais en faisant attention à ce que l'on dit? De toute façon, au cours de toute cette émission, on va justement parler de ces mots, comment communiquer avec les enfants sur ces questions. Mais qu'est-ce qu'on doit montrer aux enfants?
Voilà, donc la question des émotions n'est pas taboue. C'est important de montrer aux enfants que les émotions existent. Par contre, il faut mettre des mots dessus, l'expliquer, réfléchir. Et c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que ce soit les médias ou l'instantanéité de l'événement, on va être pris dans l'émotion et à ce moment-là, il n'y aura pas de mots ou très peu. On aura de l'émotion brute, avec très peu d'informations finalement. Donc l'idée, c'est d'ajouter de l'information au plus juste. Voilà, c'est-à-dire sans dramatiser, sans banaliser et sans modifier la réalité.
Mais vous dites sans dramatiser, comment ne pas dramatiser quand on est face à des événements si graves et dramatiques?
Absolument, sans tenir aux faits.
S'en tenir au fait. Alors, docteur Claire Di Paolo, est-ce que vous avez été conduite, justement, vous, personnellement, à aborder directement ces questions en consultation? Est-ce que c'est un sujet qui est revenu avec de jeunes patients, par exemple?
Oui, absolument. Absolument. Et souvent, ça peut faire écho. En fait, ça réveille des traumatismes qui peuvent être anciens aussi. Hein. Donc, c'est ça aussi dans le traumatisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets immédiats, des effets à distance, à court terme, à moyen terme et à long terme aussi.
Hein. Donc ce sont des enfants qui, eux-mêmes, en venaient à aborder ce genre de sujet, ou c'est vous qui alliez les interroger, les chercher sur cette thématique?
Un petit peu des deux, hein. Mais l'idée, c'est que on ne doit pas rester dans le silence et on ne doit pas se contenter du silence de l'enfant. On peut aller poser des questions.
Alors, on vous retrouve à Nantes, professeur Agnès Florin. Est-ce qu'on peut dire que la question du traumatisme se pose de façon différente en fonction de l'âge des individus? On ne ressent pas ce type d'événement de l'actualité, ce type d'événement tout court, quand on a 10 ans, quand on a 40 ans?
Très probablement, dans la mesure où le niveau de développement cognitif, les expériences de la vie sont évidemment différentes, mais comme le soulignait le docteur Di Paola, il faut penser que les enfants peuvent aussi subir deux traumatismes face à ces événements. D'abord le leur, voyant en boucle, alors évidemment il y a ceux qui ont été des témoins directs, d'un événement terroriste, et puis il y a la majorité de ceux qui l'ont vu via les médias ou en contact avec les réseaux sociaux. Et les enfants peuvent subir deux traumatismes, en fait. Le leur, face à cet événement, les émotions qu'ils ressentent, les peurs, et aussi intérioriser en quelque sorte le traumatisme de leurs parents dans la manière dont ils réagissent avec épouvante, avec impuissance, et l'idée de l'impuissance à les protéger aussi pour les plus jeunes. Et on sait également que les enfants qui possèdent un faible niveau de littératie, c'est-à-dire de maîtrise du langage, de la façon d'utiliser le langage, sont les plus vulnérables. Donc je crois qu'il faut aussi insister sur l'importance que jouent les adultes dans la protection des enfants. Et j'ai entendu, après l'attentat de Charlie, des enfants dire j'ai pas vu l'image, ils ont eu la chance d'être protégés par leurs parents, alors que d'autres, voyant en boucle les émissions et les photos récurrentes et les vidéos. Certains ont été protégés. Ils disent « Mais je préfère ne pas voir, je pense que c'est horrible. Je veux juste comprendre pourquoi ça s'est passé. » Et là, il y a un rôle très important des adultes, comme disait le docteur Di Paola. Effectivement, c'est important d'abord que les enfants expriment leurs propres émotions. Il ne faut pas que les adultes mettent d'abord leurs émotions en avant. Laissez les enfants exprimer leurs propres émotions, les rassurer sur le fait que c'est normal d'avoir peur, qu'il s'agit de choses horribles, mais en même temps apporter de l'information, dire quelle est la réalité, continuer à vivre normalement, à défendre ses idées, respecter les autres, etc. Et rassurer les enfants tout en donnant des informations sur qui sont les terroristes, pourquoi ont-ils fait ça, pour imposer leurs idées, etc. Pourquoi ils s'attaquent à tel pays, par exemple à la France, puisqu'on parle de Charlie et des attentats plus récents en France, mais pas uniquement, s'attaquer à un pays parce que on veut combattre ou on refuse la liberté existante. Mais en même temps, je pense que, mais on y viendra peut-être après, Il faut surtout pas faire du terrorisme évidemment un tabou ni à la maison ni à l'école, mais le ramener à sa juste place et savoir ce que l'enfant sait, ce qu'il a compris de l'événement pour pouvoir apporter d'autres informations. Et évidemment éviter d'être devant une chaîne d'infos en continu qui tourne en boucle. Et puis en même temps les informations, c'est sur les actes terroristes, les auteurs, le pourquoi. Ça, les enfants ont besoin de le savoir. C'est pas la peine de donner un luxe de détails, surtout aux jeunes enfants, juste donner les informations qu'ils réclament. Et puis en même temps, et là ça renvoie aussi à la responsabilité des médias, c'est vrai qu'on met en avant dans les médias l'événement, l'immédiateté de l'événement, l'acte terroriste. On met pas en avant l'absence d'acte terroriste, ça n'a pas de sens. Mais pouvoir emmener les enfants sur ce que des psychologues cognitivistes, le plus célèbre étant Steven Pinker à Harvard, a mis en avant, à savoir que il y a beaucoup d'éléments positifs dans les évolutions mondiales, même si ça ne touche pas tout le monde. La très grande réduction de la pauvreté, la réduction des guerres, même si évidemment des enfants dans certains pays sont directement touchés par cela, mais rapporté au fait que, par exemple, plus d'un milliard de personnes sont sorties de la pauvreté extrême. Mais ça, c'est pas une info qu'on publie, hein, pour les journalistes, mais il faudrait aussi pouvoir donner quelques informations. On donne plein de statistiques sur la météo, sur le sport, etc. Alors pourquoi se contenter des émotions et du ressenti quand on parle de terrorisme, de sécurité ou de pauvreté?
Je vous suis tout à fait sur ce discours, mais j'ai l'impression qu'aussi, des fois, par médias, on entend simplement télévision, on entend simplement médias audiovisuels. Oui, mais il y a quand même un certain nombre, vous l'avouerez, de médias qu'il faut aussi des analyses de fond avec des éléments et des reportages très variés, y compris sur des éléments positifs. Il y a aussi l'émotivité qui va retenir ce qui heurte, ce qui choque et ce qui bouleverse.
Oui, mais convenez avec moi que les informations les plus mises en avant et les plus
répétées,
regardées,
absolument,
lues,
absolument.
Entendues, sont plutôt sur de l'événementiel, de l'immédiateté.
De l'immédiat, absolument.
Et, bon, on est plus sur un acte terroriste, un train qui a déraillé,
que sur le spectaculaire. Écoutez, expliquez, voilà. Rassurez, docteur Claire Di Paola, est-ce qu'il y a des signes, des comportements qui doivent pousser les parents à s'interroger, à dire là, il y a quelque chose qui n'a pas été, on va dire, digéré?
Oui, tout à fait. C'est le changement dans la vie de l'enfant. C'est un enfant qui va moins bien dormir, qui va moins bien manger, qui va être triste, ou bien qui va s'agiter, qui va être ce qu'on appelle une hyperactivité, un enfant qui va être un petit peu plus violent envers lui-même ou envers les autres. Voilà, un enfant plus anxieux aussi, un enfant qui va avoir du mal à se séparer, à aller à l'école, des résultats aussi scolaires en chute. Ça peut, on peut aussi voir ça. Et puis, toutes les maladies somatoformes, bronchite, asthme, des maladies de peau, eczéma, etc.
Ça veut dire l'enfant va mal par rapport à ce qu'il a entendu, à ce qu'il a vu ou ce qu'il a directement ressenti, et sa santé va s'en trouver directement altérée.
Absolument. Absolument. Santé physique et santé psychique.
Ça veut dire que aussi certains médecins généralistes, on va dire certains dermatologues, peuvent vous envoyer des enfants qui justement ont ces symptômes et qui révèlent derrière une toute autre forme de trouble.
Absolument.
Et c'est quelque chose qui se passe en consultation. Vous recevez, docteur Di Paola, ces enfants qui, on va dire, font une poussée d'eczéma, mais derrière cette poussée d'eczéma, il y a une vraie angoisse.
Alors malheureusement assez peu, hein, c'est-à-dire que les personnes qui m'envoient le plus les enfants, ce sont les écoles, en majorité. C'est vrai qu'on n'a pas forcément dans l'idée que là on est sur un traumatisme, d'autant plus que l'enfant est petit, c'est compliqué. Ouais.
Alors une illustration si vous le voulez bien, avec quelques paroles de collégienne.
Priorité santé sur RFI.
Elles étaient scolarisées à l'école primaire au moment des attentats de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, elles sont en classe de 5e, des collégiennes du 11e arrondissement de Paris. Frappées à plusieurs reprises par le terrorisme, Charlie Hebdo, l'hypercacher en janvier 2015, le 13 novembre, les attentats contre le Bataclan, les terrasses du boulevard Voltaire et de la rue de Charonne. Alors comment perçoivent-elles aujourd'hui cette menace? C'est ce que leur a demandé Raphaël Constant.
Depuis les attentats Charlie Hebdo, il y a beaucoup plus de sécurité, on voit beaucoup plus de militaires et de policiers. Moi, certes, ça m'angoisse un peu plus parce qu'il y a plus de risques aujourd'hui qu'avant. Mais quand je vois les policiers, je me dis pas si ça se trouve, il y a un terroriste qui va venir. Enfin, j'essaye de pas y penser.
Moi, je trouve que, on est tout de même menacés parce qu'il y en a eu déjà il y a pas longtemps à Strasbourg. Et enfin.
Dans l'est de la France. Ouais.
Avec les attentats en plus du 13 novembre et de Charlie Hebdo, ça fait quand même beaucoup.
Mais aussi, il y a beaucoup de policiers au coin des rues et ça fait un petit peu peur. Il y a déjà des armes et nous, on a l'impression que les personnes qui font les attentats, ils peuvent leur prendre. Non, moi, je trouve que quand on voit des policiers, ça veut dire quand même qu'il y a un risque et que donc ils nous protègent. Donc ça rassure qu'ils soient là pour nous protéger, mais d'un autre côté, il y a un risque. Moi, ça me fait un peu plus peur parce que j'ai l'impression que ça leur montre à ceux qui font les attentats qu'on a peur.
Et comment est-ce que vous avez l'impression que le plan Vigipirate, donc le plan pour la sécurité des Français, influence vos vies ou votre quotidien?
Dans le collège, par exemple, il y en a beaucoup qui parlent de ça et ça fait un petit peu peur et ça tourne un peu que autour de ça quand ça vient de se passer. Et après, on fait un peu des hypothèses, pourquoi et qui a fait ça et s'il a été tué ou en prison. Mais aussi, il y a aussi des entraînements au cas où s'il y a des terroristes qui viennent dans l'école. Et ça fait peur à des personnes. Il y en a même qui pleurent parce qu'ils pensent que c'est vrai.
Plus le temps y passe, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'exercices confinement. Et qu'en fait, si ça arrive pour de vrai, on pense pas trop à nous, mais on pense plutôt à nos proches, s'ils sont dehors ou pas, s'ils sont sur la place où ça se passe ou pas.
Et donc ça, ces exercices et tous ces policiers ou ces militaires que vous voyez armés à Paris ou en province, en France, est-ce que c'est une source d'angoisse pour vous qui avez grandi sous ce plan Vigipirate?
Moi, quand ça s'est passé, pendant une semaine, j'ai eu peur et j'allais à la piscine toute seule. Je voyais qu'il y a des policiers qui m'escortent. Mais là, maintenant, j'ai plus du tout peur. J'arrive à me balader sans y penser et je fais pas de cauchemar dessus.
Moi, oui, ça m'angoisse parce que avant, j'habitais dans un quartier où dès que je sortais de chez moi, il y avait une synagogue juste à côté et il y avait à chaque fois genre 5 militaires qui attendaient avec leurs grosses mitraillettes. Et quand j'allais à l'école tous les matins, je les voyais et c'était super angoissant.
Moi, sur le moment, quand je retournais aux endroits où il y avait eu les attentats, ça me faisait un peu peur parce que je me disais, là, il y a des terroristes qui sont venus, qui ont tué des personnes et tout. Mais maintenant, quand je retourne dans ces endroits, j'y repense forcément parce que, je sais qu'il y a eu un attentat, mais ça me fait pas peur maintenant de me dire que je retourne là.
Moi, ça me rend triste pour les gens qui ont été tués et pour leur famille. Mais il faut quand même pas montrer qu'on a peur parce que sinon on rentre un peu dans leur jeu.
C'est surtout à notre âge qu'on a tendance à avoir plus peur parce que moi je me rappelle quand j'étais au centre et il était 18h et je comprenais pas parce qu'il y avait des sirènes de policiers qui passaient.
Le jour des attentats de Charlie Hebdo?
Et ils voulaient pas qu'on sorte de l'école donc je comprenais pas. Et après quand on me l'a dit, ça m'a pas forcément fait peur sur le moment parce que j'ai pas très bien compris. Mais c'est plus maintenant quand je me rends compte de ce qui s'est passé.
On nous explique pas tout sur les attentats, peut-être pour pas nous faire peur ou pour pas que ça nous perturbe. Mais plus on grandit, plus on prend conscience de la gravité des choses. Et ça peut angoisser.
Professeur Agnès Florin, en direct de Nantes, qu'est-ce que vous retirez de ces paroles de collégienne du 11e arrondissement? Beaucoup de choses dites avec ce mot « peur » qui revient sans arrêt.
Oui, certes, le mot « peur » revient et c'est bien naturel. Mais en même temps, ce que j'entends dans leurs propos, c'est une certaine mise à distance, une réflexion qui visiblement a été accompagnée par des adultes à l'école ou les parents, et qui leur a permis, grâce à cet accompagnement, de développer des stratégies positives, en quelque sorte. On sait que chez les enfants qui sont accompagnés, Ils ont le plus souvent des réactions adaptées, obéir aux consignes, se sentir protégés par l'adulte, poser des questions sur ce qui arrive, aider leurs camarades. Ils ont dit combien finalement les exercices et ce qui a été dit autour de cela les a aidés à prendre conscience du fait qu'on est ensemble, qu'on peut aussi aider les autres et peut-être moins penser à soi-même, tout en ayant bien sûr une inquiétude vis-à-vis des proches. Mais ce dialogue à la fois sur ce qui s'est passé et aussi les informations nécessaires, c'est le moment aussi dans ces cas-là de discuter avec les enfants de thématiques plus générales qui sont relatives aux droits, aux règles, aux fonctions des personnels, de justice, de sécurité. Ils ont dit combien, bon, évidemment, voir des policiers avec des mitraillettes, ça peut faire un peu peur, mais en même temps, ils savent bien qu'ils sont là pour assurer une protection, éduquer civiquement. L'éducation civique est aussi très importante. Et puis, on l'a fait avec des moyens limités, je pense, à des pays où le système scolaire, judiciaire peut être moins développé, moins performant à certains égards qu'en France. Faire exprimer aux enfants leurs émotions, pas uniquement verbalement, ça peut être le dessin, ça peut être la terre à manipuler, d'abord exprimer les émotions et puis repartir aussi sur d'autres formes de création à partir de cela, guidées par l'adulte avec la possibilité de dessiner quelque chose en donnant quelques contraintes sur le dessin, sur les outils à utiliser, etc. une fois que l'émotion a été exprimée. Donc l'éducation peut beaucoup, l'accompagnement des adultes pour sécuriser les enfants dans leur relation avec les adultes, pour reprendre ou gagner en confiance en soi et dans les autres, c'est quelque chose de très important et ça passe aussi par, ça peut passer aussi par ce que j'appellerais du travail scolaire sur les moyens d'expression, sur les informations, sur la justice, sur la sécurité, etc. Et les enfants en ont bien rendu compte dans leurs propos.
Et ça les intéresse en plus. Justement, certains, on parlait de ces exercices de confinement, docteur Claire Di Paola, s'inquiète justement de ce type d'exercice, hein, attente à intrusion, c'est le nom que ça a en France. On explique les comportements à suivre en cas de risque, ça donne une dimension concrète, même physique, hein, à ce risque. Alors, comment l'interpréter? Est-ce que d'un côté, on dit aux enfants, non, tu ne seras pas directement touché, on les rassure, et puis d'un autre côté, oui, tu peux directement être touché. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction paradoxale dans tout cela?
Oui, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en fonction des établissements, les adultes sont plus ou moins à l'aise. Et puis aussi en fonction des âges des enfants. Est-ce qu'on fait passer ça pour un jeu? Est-ce qu'on leur dit la vérité, etc. Donc il y a c'est pas si simple. Je pense que le protocole a été intégré. Par contre, comment on le présente, comment on le formule, comment on réfléchit autour de cet exercice qui n'est pas anodin. Moi, ça me semble très important. Donc effectivement, en plus, on ne sait pas ce qui a été dit à l'enfant, est-ce que ses parents lui en ont parlé, les parents ne savent pas ce que finalement l'école a dit sur cet exercice, donc peut-être que ça mériterait de mettre davantage de liens entre les familles, les écoles, et pouvoir élaborer autour de ce type d'exercice.
En tout cas, c'est un sujet qui est souvent débattu entre parents d'élèves et la communauté éducative, c'est un sujet qui revient de façon récurrente.
Voilà, mais l'idée,
sur la gestion du stress, notamment.
Absolument, mais c'est aussi prendre son temps. On n'est pas obligé de se précipiter dans de tels exercices. Je pense que l'élaboration, le psychisme, nécessite du temps.
Tout à l'heure, on entendait l'une des collégiennes du 11e arrondissement dire, je me souviens, j'étais au centre aéré, aujourd'hui, je prends conscience. Ça veut dire qu'il peut y avoir une sorte de compréhension, de réalisation de ce qui s'est passé avec un délai et même pour certains, peut-être même un traumatisme à retardement.
Absolument. Hein, on le voit beaucoup, ça, c'est très fréquent, c'est-à-dire qu'on va voir quelque chose de différé de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années.
Alors vous restez avec nous, docteur Claire Di Paola, professeur Agnès Florin. On va tout de suite prendre un auditeur de Priorité Santé en ligne.
Priorité Santé sur RFI.
Et cet auditeur nous appelle de la région de Tombouctou au Mali, c'est Issa. Bonjour Issa.
Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous êtes enseignant, Issa, donc directement en lien avec ces enfants dont on parle aujourd'hui pour savoir comment ils vivent les situations de tension dans des contextes de violence, de déplacement, d'attaque terroriste. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience personnelle?
Eh bien, en fait, nous venons d'arriver une formation basée sur le bien-être des élèves en situation de conflit, organisée par l'ONG NRC. À l'issue de la formation, plusieurs points ont été évoqués sur le bien-être des élèves. Parmi ces points, on peut citer les sentiments de contrôle. Il peut s'avérer important pour les enfants et les jeunes dont l'existence quotidienne et la stabilité ont été perturbés suite à un déplacement au chaos et à la violence.
Vous-même, vous êtes enseignant. Les enfants dans votre classe, dans votre section, ont quel âge? Et est-ce que certains de ces enfants, justement, sont directement concernés par la violence et par les déplacements?
Bien sûr, depuis le début de la crise au nord du Mali, donc beaucoup de nos écoles sont concernées dans cette même situation. Donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, l'objet de cette formation, donc ici dans la région de Tomoku, plusieurs écoles sont concernées dans cette situation de conflit vraiment.
Est-ce que les enfants expriment leur inquiétude? Est-ce que vous avez vu, justement, chez des enfants déplacés, des comportements auxquels vous n'étiez pas habitué?
Bien sûr, on peut également remarquer un sentiment de peur et d'insécurité amenée dans ce. Donc, il y a vraiment un sentiment de peur qui les domine très largement. Et ces élèves ont besoin d'être rassurés. Et pour ce faire, cette formation a mis l'accent sur les sentiments de contrôle. Donc, les sentiments de contrôle permet à l'enfant de se sentir en sécurité et à l'abri. Et ils auront également un sentiment de stabilité également.
Besoin de se sentir rassuré. Merci beaucoup Issa pour ce témoignage dans la région de Tombouctou au Mali. On va reprendre
intervenir cette... s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, professeur Agnès Florin, je vous en prie.
Oui, votre intervenant m'a fait penser à l'échange que j'ai eu vers le mois de mai, juin, avec le ministre de l'Éducation du Burkina, pays victime aussi d'attentats terroristes, et qui voulait organiser les examens de fin d'école primaire. Alors l'idée était de prendre des bus pour ramasser les enfants, si je peux dire, et les amener au centre d'examen. Et les parents s'y sont opposés en disant non, c'est pas possible, parce que le bus sera une cible pour les terroristes. Oui. Mais nous, on veut que nos enfants passe les examens. Et alors, sans beaucoup de moyens, chaque parent a tenu à emmener son enfant au centre d'examen. Il a fallu toute une organisation pour accueillir aussi les parents, les héberger, pendant que les enfants passaient les examens, pour maintenir cet élément fondamental qui était l'éducation, qui était la sécurisation des enfants. Et ça, je crois que c'est aussi un très bel exemple de ce qui peut être fait pour sécuriser les enfants, les restaurer en quelque sorte dans la normalité autant que faire se peut.
Alors on va voir, merci beaucoup, un autre témoignage toujours dans ce cadre, on va rester dans cette même région ouest africaine puisque l'on rejoint Michel Mariette, bonjour. Michel Mariette en ligne avec nous, bonjour. Oui, vous bonjour. Êtes psychologue clinicienne pour Médecins Sans Frontières, vous avez effectué de nombreuses missions en contexte de crise, hein, Kenya, Gaza et donc le Nigeria. On va revenir sur cette expérience de Maïdougouri dans l'état de Borno. Les auditeurs de RFI qui suivent l'actualité africaine savent bien que cette région est soumise à la violence depuis des années, hein, la violence du groupe Boko Haram. Précisément, Michel Mariette, dans quel contexte est-ce que vous avez pris en charge des familles, des parents de jeunes victimes de Boko Haram?
C'était dans le cadre donc des activités médicales de MSF. Moi, je m'adressais surtout aux femmes victimes de Boko Haram que j'accompagnais. Voilà.
Avec des mères aussi qui exprimaient des inquiétudes pour leurs enfants.
Voilà, donc au cours des groupes, c'était essentiellement des groupes. Les mères exprimaient des, racontaient un peu ce qui se passait pour leurs enfants, comment ils avaient pu fuir, et surtout tous les symptômes qu'ils pouvaient avoir, ou les difficultés en tout cas qu'elles rencontraient à être mères.
Et qu'est-ce qu'elle décrivait précisément sur les effets concrets, hein, sans le moindre voyeurisme, mais tout de même pour savoir comment ces épreuves étaient ressenties dans leur âme, dans leur esprit et aussi dans leur mental par ces enfants?
C'était surtout les symptômes que qu'ont cité mes collègues auparavant, avec beaucoup d'énurésie.
Donc ce qu'on appelle communément le pipi au lit.
Oui, voilà. De nouveau, des enfants qui étaient propres et qui ont même 12, 13, 14 ans et qui recommencent à faire pipi la nuit.
Donc, dans de nombreux cas de traumatisme psychologique, justement, ce problème des fonctions urinaires ou même fécales est souligné. Quelle prise en charge était à ce moment-là proposée?
Alors, à Maïdougouri, les familles étaient dans des camps organisés pour les accueillir. Et sans non scolarisés. Donc, ils n'avaient pas non plus cette régularité ou ce retour à la vie normale qui a été parlé plus tôt. Donc, et c'était surtout le travail, c'était surtout de remettre les parents en position active. Ce que je pouvais faire moi, ce que j'essayais de faire, c'est de les remettre en position de pensée, de se remettre en position de parents.
Parce que si les parents étaient à genoux, si les parents étaient affaiblis, il n'y avait pas moyen justement d'avoir cette fonction pour aussi reprendre la fonction protectrice des enfants.
C'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus les moyens habituels d'être parents. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus subvenir, ils ne subvenaient plus aux besoins de leurs enfants. Il n'y a plus d'école. Le système social, l'organisation habituelle n'existait plus, puisque les gens de différents villages, de différentes villes étaient regroupées dans les mêmes camps, enfin, par zone. Donc, il n'y avait plus les structures du tout habituelles, les repères habituels.
Et justement, pour les remettre sur pied, c'était quoi la méthode, Michel Mariette? Vous nous avez parlé, quand on a préparé cette émission, de groupe de parole. En quoi cela, à quoi ça ressemblait, où ça se passait, qui venait et comment se passaient ces groupes sur la base du volontariat? Est-ce que vous alliez chercher les personnes?
Alors, les personnes que j'ai rencontrées venaient consulter dans les centres de soins MSF ou dans les hôpitaux dans lesquels on pouvait travailler. Et donc, je me présentais et il y avait des horaires pour les groupes et celles qui voulaient venir venaient. Donc l'objectif était d'aborder les événements passés et tout ce qui pouvait leur être arrivé depuis et notamment pour arriver à parler de leurs émotions. Donc elles ont pu raconter les fuites de village sous les tirs, les enlèvements aussi. Les enlèvements d'enfants, les disparitions d'enfants, des mamans qui attendaient, qui ne savaient pas où étaient leurs enfants depuis assez longtemps. Et étaient abordés au cours de ces groupes, à un moment ou à un autre, parce que des fois il y avait aussi des bébés qui étaient là, les difficultés à être parents. Parce que c'était ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus comment faire dans ce nouveau contexte-là. Et on ne sait pas quoi faire de ces difficultés qui étaient rapportées.
Avec justement ce double défi, c'est-à-dire à la fois de faire face à un traumatisme profond et puis la vie qui continue, parce que certains peuvent penser, même si ça paraît aberrant, que finalement la violence, on est tellement habitué que c'est banalisé. Eh bien pas du tout, c'est ce que vous voyez dans ces contextes de crise, de conflit. C'est pas parce que cela fait des années qu'on subit la violence que l'on s'habitue à cette violence.
Alors on s'habitue pas, puis là ça faisait pas des années, ça faisait des années qu'ils étaient déplacés. À part les personnes enlevées ou ceux qui avaient cette violence-là de ne plus d'avoir un enfant kidnappé ou le nombre de morts. Mais en Maïdougouri, les gens étaient normalement en sécurité. Il y avait moins d'attentats, moi, quand j'y étais, dans Maïdougouri.
Merci beaucoup, hein. Merci pour toutes ces explications, Michèle Mariette. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne pour Médecins Sans Frontières. On aborde la dernière partie de notre émission consacrée aux enfants qui grandissent dans un contexte de menaces terroristes avec nos deux invités, toujours en studio, docteur Claire Di Paola, psychiatre et psychothérapeute, toujours en direct de Nantes, dans les studios de France Bleu Loire-Océan, professeur Agnès Florin. Professeur,
puis-je intervenir brièvement?
Bien évidemment, j'allais vous donner la parole. Vous êtes bien là pour ça.
Dans ce qui vient d'être dit par plusieurs intervenants, je crois qu'il y a un élément essentiel à ne pas oublier, c'est l'importance de réactiver le collectif. Le collectif réunissant les parents, que chacun ne se sente pas seul, soit avec des regroupements des parents dans des conditions effectivement assez particulières, comme celles qui ont été énoncées, que les enseignants, lorsque l'éducation est toujours en place, puissent communiquer entre eux, et puis évidemment les échanges entre les parents, les enseignants, les personnels de santé, quels qu'ils soient, parce que pour les enfants c'est important de sentir cette communication et cette attention envers eux, de leurs parents, des professionnels de santé ou d'éducation, qui contribuent aussi à les protéger, à restaurer la normalité des relations, bref, ce qui est un accompagnement bienveillant, et y compris à l'école, encore une fois, lorsqu'elle existe.
Alors, Michèle Mariette parlait tout à l'heure de ces groupes de parole. Docteur Claire Di Paola, précisément du côté de la prise en charge, quel type de thérapie a fait aujourd'hui ses preuves? Vous, par exemple, vous utilisez quoi comme méthode? On parle bien sûr pas de recette, mais vous utilisez quoi comme piste pour limiter, atténuer, guérir certains traumatismes?
Eh bien, moi, j'utilise le MDR. Qui est une thérapie qui consiste en la on va retraiter des informations par stimulation bilatérale alternée visuelle, auditive ou tactile.
Ça veut dire qu'on active nos sens pour quoi? Pour revivre, pour reformuler les choses?
Donc en fait, c'est une thérapie qui va permettre de digérer ce qui ne l'a pas été. C'est une thérapie brève, définitive, et qui a été validée scientifiquement, qui est très efficace, qui est maintenant recommandée par l'OMS, par la Haute Autorité de Santé, qui marche très bien sur les enfants, encore mieux que sur les adultes.
Avec des mouvements oculaires, par exemple. On imagine que le grand public a du mal à comprendre c'est quoi exactement le rapport entre le fait de faire un peu des grimaces avec mes yeux et le fait de me sentir mieux dans ma peau. Comment ça marche?
Bien, l'idée, c'est que l'hypothèse qui est avancée, c'est pas, que pendant notre sommeil, nous avons des saccades au niveau des yeux qui permettent de retraiter l'information de la journée et des informations souvent émotionnelles. Hein, on a cette phrase qui dit « la nuit porte conseil ». Donc vous voyez que le lendemain, vous n'êtes plus dans le même état que la veille. Donc l'idée, c'est de faire passer cette information dans un autre endroit du cerveau, qui est le cortex préfrontal. Et donc, à ce moment-là, l'information est triée, est classée et n'est pas reliée à l'émotion. Donc, et on le voit pendant la séance, les enfants qui, au départ, étaient très impactés, parfois en quelques minutes, sont vraiment soulagés. Et les parents nous disent, il a bien dormi cette nuit, il ne pose plus ses questions en boucle, il va beaucoup mieux, etc. Voilà. Sur à peu près une centaine d'enfants, l'efficacité, en tout cas moi ce que j'ai constaté, était de 94%. Donc 94% des enfants étaient améliorés.
Sur quelle période, sur quel temps, quel délai?
Vous te parlez tout à l'heure. Il faut savoir que 9 enfants sur 10 n'ont besoin parfois que d'une seule séance de désensibilisation. Donc ça va très vite. L'intérêt aussi, c'est que on peut faire cette thérapie en individuel, on peut la faire en couple, on peut la faire en fratrie, en famille et aussi en groupe. C'est une thérapie où on n'a pas besoin non plus de tout détailler. De remettre en surface tout son trauma.
Donc parce ça, que c'est les gens, des fois, ont un petit peu peur de ressasser, on va dire.
Absolument. Ils ont peur de ça. Ils ont dit, moi, j'ai vu des psys, ils m'ont fait encore reparler de mon truc, et moi, ça m'a vraiment mise à mal. Donc là, l'idée, c'est que on n'a pas besoin de parler tant que ça. Et puis surtout, l'intérêt de l'EMDR, c'est que on a la partie cognitive, la partie émotionnelle et la partie corporelle. Donc on va aller chercher dans le corps aussi des choses un peu coincées, hein. On sait que le trauma se mémorise beaucoup dans le corps, surtout chez les très jeunes. Et donc c'est une formidable thérapie. On l'utilise à tout âge. Je l'ai utilisé pour les nourrissons, hein, pour les nouveau-nés, les nourrissons, les enfants, les adolescents, les adultes, et chez les femmes enceintes également.
Alors, on a parlé de l'EMDR tout à l'heure, des groupes de parole. Tout à l'heure, professeur Agnès Florin, on arrive à la conclusion de notre émission, hein, vous évoquiez l'expression, peut-être oui. Sans le dire directement, l'art-thérapie. Vous voyez quoi justement aussi comme piste thérapeutique pour les personnes justement qui ont vécu ce type de traumatisme?
Bah, du point de vue éducatif, juste après ce vécu, pouvoir l'exprimer par le dessin, par la manipulation de la terre, etc. Et puis que les éducateurs, on a fait ça avec l'UNICEF ou d'autres, que les éducateurs ou enseignants puissent reprendre ce dessin et proposer aux enfants une autre forme d'expression avec, disons, du dessin guidé ou un thème particulier pour remettre les enfants dans les aspects éducatifs, apprentissage, pas forcément de type scolaire, mais qui les aident à se projeter dans leur expression, dans leur créativité et dans leurs apprentissages pour l'avenir.
Et en quelques mots, docteur Claire Di Paola, pour parler concrètement, comment est-ce que l'on sait qu'un enfant qui a subi un traumatisme, que cet enfant va mieux ?
Ah ben déjà, l'enfant nous le dit. Hein, il peut nous dire, ben, je me sens bien, j'ai plus mes idées qui reviennent, j'ai plus mes cauchemars, ils font plus pipi, au lit, hein, donc il y a plus besoin de régression, de choses comme ça. Les parents nous le disent aussi. Ah ben là, je retrouve mon enfant. Et puis les enseignants, l'école nous dit, ben là ça va mieux, les résultats scolaires sont en hausse, ça va beaucoup mieux. Donc on a un retour plutôt positif et durable. C'est ça qui est intéressant. Par contre, je voulais juste ajouter que pour faire de l'EMDR aux enfants, pour rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, il faut absolument que les parents soient stabilisés, parce qu'il faut redonner les capacités parentales, et donc il est important de traiter les adultes en priorité. D'où l'intérêt de faire de l'EMDR d'abord aux adultes, et puis ensuite ils sont en mesure de nous aider.
Ils viendront en relais,
et parce que ça sert à rien de traiter l'enfant si l'adulte, lui, est extrêmement impacté.
Bien compris cette dimension collective, aussi bien entre l'éducatif, le médical, que bien sûr familial.
Voilà, et que on ne peut pas traiter en priorité l'enfant, priorité à l'adulte, qui va ensuite pouvoir sécuriser l'enfant.
Merci beaucoup, merci mesdames d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. À vous, professeur Agnès Florin, professeur émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'université de Nantes. Un nouveau grand merci à nos confrères de France Bleu Loire-Océan pour leur hospitalité. Et à vous, docteur Claire Di Paola, je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute spécialisé en psychotraumatologie au sein de l'intersecteur de psychiatrie infantojuvénile du centre hospitalier de Plaisir en région parisienne.
Priorité Santé sur RFI.
Une tribune publiée il y a un peu plus d'une semaine par le journal Le Monde, collectif de 130 médecins qui appellent le gouvernement à dresser un état des lieux sur la place des femmes dans les carrières hospitalo-universitaires. Pour améliorer l'accès de ces femmes à ces postes, comme d'ailleurs à la direction des hôpitaux, des facultés de médecine, les sociétés savantes également sont concernées avec des attentes, des revendications qui s'appuient sur des données chiffrées. Pour en parler avec nous, professeur Laurence Bouillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine interne et immunoclinique au CHU de Grenoble. Des chiffres parlants, hein, professeur Bouillet, puisqu'on est encore très loin d'une situation de parité en France en ce qui concerne les postes de professeurs en milieu hospitalier.
Tout à fait. Les professeurs dans les différents CHU sont en minorité occupés par les femmes, alors que les femmes représentent actuellement presque 60% du corps médical.
60% du corps médical, moins d'un quart des femmes professeurs. Comment on l'explique en 2019?
On a du mal à l'expliquer, effectivement. On ne peut l'expliquer que par un effet plafond de verre, que par un sexisme qui est identifié régulièrement par les femmes dans dans le cadre de leur activité, qui les décourage très tôt à faire ce type de carrière hospitalière.
Est-ce que ça veut dire que ce sont les femmes elles-mêmes, professeur Laurence Bouillet, sans bien sûr incriminer personne, qui se disent à ce moment-là, je sais que je vais pas pouvoir aller plus haut parce que, on va dire, la famille, ma vie ou l'environnement masculin va m'empêcher de continuer. C'est ce fameux plafond de verre, cette ambition qui trouve à un moment sa limite.
Vous avez tout à fait raison, c'est l'autocensure et l'une des problématiques est effectivement la censure que se mettent les femmes elles-mêmes. Moi, j'ai été très surprise en débutant mon professorat d'avoir des jeunes qui me disent « mais moi, je veux faire des enfants, donc je ne veux pas une carrière de professeur ». Et là, je me suis dit « on a régressé, on a un problème en 2000 ». Bon, à l'époque, c'était 2015, on a vraiment un problème.
Et justement, vous, professeur Bouillet, vous l'êtes, professeur. Qu'est-ce qui a fait dans ce parcours que vous ne vous soyez pas heurté à ce plafond de verre?
Alors, moi, je pense que j'ai de la chance. J'ai été féministe qu'à partir du moment où j'étais nommée. Donc, j'ai eu la chance d'être dans un environnement plutôt bienveillant vis-à-vis des femmes. Et je me suis rendu compte de ce sexisme qu'à partir du moment où j'étais professeure et que j'ai voulu intégrer des commissions à l'université ou à l'hôpital. Et puis, à partir du moment où j'ai voulu pousser des jeunes à faire la même carrière que moi, et que je me suis trouvée face à ces réflexions sexistes.
Et cette ouverture, justement, elle était liée à quoi? À des considérations, on va dire, géographiques. On a dit, vous êtes sur la région de Grenoble. Mmh. Ou liée à votre spécialité, l'allergologie, ce genre de choses sur l'immunité, c'était lié à quoi?
L'immunologie, c'est la médecine interne immunologie clinique. Vous avez raison, je pense qu'une partie, on est à Grenoble, on n'est pas, par exemple, le milieu parisien, où là, c'est beaucoup plus dur. Et je sais que mes collègues parisiennes ont plus de difficultés pour arriver à ces postes-là. Elles ont besoin de plus prouver qu'elle mérite ses postes par rapport à un homme.
Alors cette démarche vers la parité, professeur Laurence Bouillet, il faut l'entamer très tôt. Pour vous, c'est dès la formation?
Vous avez tout à fait raison. Alors bon, je dirais que quelle que soit la carrière scientifique, médicale ou autre, c'est dès l'école même, la maternelle, d'éduquer nos filles et nos fils à cette accessibilité identique aux filles et aux garçons. Et puis pour ce qui est des études médicales, effectivement, dès la deuxième année de médecine, on doit pouvoir expliquer, montrer qu'une carrière peut se faire tout en ayant une vie de famille.
Est-ce que les professeurs hommes approuvent justement cette démarche, on va dire, militante vers la parité, où certains regardent ça en disant à compétence égale, capacité d'évolution égale, où il y a vraiment aussi une prise de conscience masculine de ces blocages de fait vers ces postes de professeurs?
La prise de conscience, elle n'est pas... Je ne trouve pas que nos collègues masculins aient les prises de conscience, puisqu'ils ont tendance à nier le problème et à dire « mais il y a beaucoup de femmes dans les hôpitaux, donc ça va être mathématique, il y aura des hommes, des femmes qui vont être nommées à des postes de responsabilité ». On est en 2019, ce n'est déjà pas le cas, alors que ça fait déjà plus de 20 ans qu'il y a 50% de femmes dans le milieu hospitalier. Donc non, ce n'est pas vrai. Les hommes font un vrai lobbying, hein, travaillent beaucoup en réseau. Les femmes, on ne sait pas faire ça, bon, parce qu'on est arrivé tardivement à ces postes à responsabilité, et donc on attend d'être nommé sur nos qualités. Or, les hommes sont organisés en réseau, et les personnes nommées le sont dans le cadre de ces réseaux.
Donc une première mesure, c'est justement de s'organiser pour échanger, partager, et entre guillemets se faire la courte échelle pour dépasser ce fameux plafond de verre. Merci à vous beaucoup, Laurence Bouillet, professeur Bouillet, d'avoir été en ligne avec nous de Grenoble. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine interne et d'immunoclinique au CHU de Grenoble, dans l'Isère. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous allons parler de l'infertilité, cause, prise en charge. On attend bien sûr vos nombreux appels 33 84 22 75 75 ou sur notre page Facebook.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.